Je m'appelle Frédéric Lefebvre-Narret, je suis donc le responsable du projet dans l'équipe de Jean Lassalle, candidat à la présidence de la République.
Quelle est la position de Jean Lassalle concernant les OGM, les pesticides et aussi les perturbateurs endocriniens?
Je sèche en fait, je suis sûr qu'il en a déjà pas mal parlé, mais je me suis mal renseigné, j'aurais dû réviser votre questionnaire. Éventuellement, je vous enverrai un complément. Au feeling, lui, il est quand même absolument partisan d'une agriculture de qualité, voilà, qui n'est pas forcément l'agriculture bio. Mais qui est l'agriculture paysanne, celle qu'il a connue. Hein. Il était berger jusqu'à l'âge de 22 ans, berger transhumant, en emmenant les brebis à l'estive en territoire espagnol, au lac d'Estaing, voilà, de la brebis à l'herbe. et donc, c'est cette agriculture-là, pour lui, hein, qui fait vivre le territoire, qui produit de la valeur appréciée par les gens. Vous voyez, un maire m'hébergeait hier, puisqu'on était en déplacement dans le Pays de Ré, et il me disait qu'un jeune venait de s'installer sur sa commune. Il a 17 exploitations au total sur sa commune, ce qui est pas mal. Un jeune vient de s'installer sur sa commune, sur un hectare, où ils font du maraîchage bio, etc. Bon. Et il dit, ils vendent, j'espère que je ne confonds pas l'anecdote, mais c'est ce que j'ai retenu, ils vendent deux fois le prix. Ils vendent leurs produits sur les marchés deux fois le prix de ce que vendent leurs voisins, hein, et ça se vend très bien. Et donc, aujourd'hui, d'ailleurs, on dit sur les marchés agricoles que les exploitations bio s'en sortent mieux que les autres. Je ne sais pas si c'est vrai dans toutes les spéculations, comme on dit, dans tous les domaines, mais on est sur une logique économique dans la promotion, pas sociale, bien sûr, écologique, bien sûr, culturelle, mais aussi économique, dans la promotion d'une agriculture de terroir, d'une agriculture de qualité, qui puisse... Je dirais de façon générale, minimiser l'usage d'OGM, de pesticides, de ce qui peut être perturbateur endocrinien. Alors, c'est pas seulement dans l'agriculture. Voilà. Alors, il faut regarder ensuite point par point. Je ne saurais pas vous dire très précisément, mais l'idée générale, c'est celle-là.
Plus largement, peut-être à propos du principe de précaution qui est abordé beaucoup dans cette campagne. Certains veulent la remettre en cause. La position de Lassalle par rapport à ça?
Alors, je vais vous donner ma position à moi, parce que je n'ai pas entendu là-dessus, mais je ne serais pas étonné qu'il la partage. Le principe de précaution aujourd'hui est compris à contresens de ce qu'il était quand il a été défini voilà, par Guarlembo, Monplante et compagnie. Le principe de précaution, c'est un principe d'action positive. C'est-à-dire, si on voit un risque dont les conséquences ne peuvent pas être entièrement maîtrisées, il faut agir pour rechercher les conséquences correspondantes, pour les prévenir, etc. Et aujourd'hui, dans le débat public, le principe de précaution, c'est devenu... Ah, s'il y a le moindre risque, on ne doit rien faire. Donc c'est exactement l'inverse. Donc je suis en tout cas convaincu que le principe de précaution tel qu'on peut l'entendre, tel que Jean Lassalle peut l'entendre et le comprendre, c'est un principe d'action positive, c'est un principe de recherche, un principe tourné vers l'avenir. Voilà. Et vous voulez qu'on parle tout à l'heure des aspects d'évolution, j'allais dire, de l'être humain, de génie génétique, etc. Voilà typiquement un domaine dans lequel le principe de précaution doit s'appliquer, au sens où il faut chercher, où il ne faut pas être surpris, parce que la technologie... produit. Enfin, il ne faut pas être surpris, il faut être surpris le moins longtemps possible. Hein, il faut que l'intelligence de l'être humain fasse l'effort de tenir le rythme de ce qui lui est imposé par l'évolution purement technologique. Voilà.
Parlons maintenant un peu des scandales sanitaires qui ont touché ces dernières années le pays, même le monde. Ces scandales ont été souvent liés à l'industrie pharmaceutique. Comment faire pour prévenir ces choses-là?
Il y a une évolution très profonde dans l'industrie pharmaceutique qui est pour des raisons multiples qui peuvent être liées à la pharmacie elle-même ou à l'évolution générale du capitalisme, hein, des multinationales. L'industrie pharmaceutique qui a été une grande force à la fois de recherche, développement et de production, de qualité de production, de chaînes logistiques remarquables, etc. Et qui l'est toujours, hein, dans une certaine mesure. En même temps, a été progressivement dénaturée par la financiarisation, par la spéculation sur les brevets, par la brevetabilité du vivant, si les brevetables. Enfin bon. Donc là, on a un exemple d'évolution particulièrement catastrophique d'une industrie ou d'un secteur d'activité. Les scandales sanitaires, est-ce qu'ils peuvent naître de là? Ça peut certainement, bien sûr, expliquer une partie des choses, comme dans le cas du Mediator bien connu. Dans les scandales sanitaires, il y a aussi, enfin, je ne sais pas si c'est le mot scandale sanitaire qui s'applique, dans les crises sanitaires, il y a aussi l'effet pervers de l'industrialisation ou de la modernité ou de la technologie telle que l'avait décrit Ivan Illich. C'est-à-dire, voilà, par exemple, sur les crises, je m'éloigne un petit peu de l'être humain, parce que j'ai en tête la crise des canards, là, comment elle s'appelle déjà, la grippe aviaire en ce moment, là. hein, qui est entretenu par le fait que l'élevage du canard, par exemple, est fait successivement par plusieurs personnes, par plusieurs exploitations spécialisées dans certaines phases, et qu'on déplace les bêtes et qu'on leur fait faire 150 km. Et donc, si virus il y a, il peut contaminer des départements entiers. Donc là, on est vraiment typiquement dans la némésis de la civilisation. Et on imagine évidemment beaucoup plus qu'un retour à un fonctionnement raisonnable où les gens sont responsables de ce qu'ils font du début à la fin, ne peut que prévenir les crises, ne peut être que beaucoup mieux. Et c'est ce qu'on fait dans beaucoup de domaines d'activité, ce qui fait que c'est assez curieux que des pans entiers de l'agriculture ou de l'élevage, je me suis éloigné de la pharmacie, mais que des pans entiers de l'agriculture ou de l'élevage, voilà, continuent à suivre une logique de gigantisation, de regroupement et de dépersonnalisation, voilà, qui dans d'autres secteurs a été abandonnée depuis des années. Sur la pharmacie, donc, faut mettre en évidence, voilà, bien sûr, les problèmes de conflit d'intérêts, et puis, voilà, de façon générale, une régulation ou absence de régulation internationale qui laisse absolument la porte ouverte à la spéculation sur des choses qui n'ont pas de raison de nourrir la spéculation. Ça, c'est, pareil, je vais encore citer un auteur, parce que Jean Lassalle ne le fait pas souvent, mais c'est archi démontré par exemple par Stiglitz dans Making Globalization Work. La brevetabilité des médicaments n'est pas une incitation pertinente à l'innovation, puisqu'on a peu, quand on fait la recherche, on ne peut se faire aucune idée du profit qu'il y aura derrière, du bénéfice qu'il y aura derrière. Hein. Donc il n'y a pas ce signal. Hein. On dit toujours que la possibilité de breveter la propriété intellectuelle, enfin les gens qui la justifient par le fait qu'elle donne un signal qui incite à investir dans le domaine sur lequel il va y avoir des gains à faire. Mais dans le cas de la pharmacie, le signal est totalement disproportionné, totalement brouillé. On ne peut pas avoir d'idée. Hein. Donc, voilà, il faut chercher pour l'avenir. Il y a pas mal de groupes de chercheurs, etc., de professionnels qui proposent des mécanismes alternatifs à ça. Et puis, bien sûr, il y a un aspect démédicalisation, socialisation. Donc il y a un troisième effet pervers qui vient des mécanismes de remboursement eux-mêmes. Ça, c'est propre à chaque pays. Hein, et donc, on s'éloigne un peu des crises sanitaires. On est dans la mauvaise santé ou la maltraitance, à la limite, dans certains cas. Hein, c'est-à-dire on a un système de remboursement qui on va encourager par exemple à mettre les gens sous contention médicamenteuse, alors que Jean Lassalle il pense que ça serait mieux d'envoyer des jeunes en service national faire des animations dans les maisons de retraite. Et peut-être que les gens seraient plus heureux aussi. Voilà.
Alors justement, vous parlez des médicaments plus largement. Comment faire pour financer la santé publique?
Financer les soins de santé, vous voulez dire?
Les soins, oui, ou la recherche aussi.
Donc, de façon générale, on considère la santé, c'est-à-dire des soins de santé efficaces, comme un investissement. Ces soins de santé, ils produisent de la vie, ils produisent du bonheur, ils produisent des gens qui vont être plus autonomes. Enfin, c'est d'ailleurs les indicateurs classiques, l'espérance de vie sans invalidité ou sans maladie, etc. Et donc, oui, à la limite, ça, c'est pas une proposition concrète, mais c'est plus une vision d'avenir. Voilà, si on était capable, et on ne l'est pas, heureusement, de comptabiliser la vie en actif et en passif, on verrait peut-être que les soins de santé, ils rapportent de l'argent plus qu'ils n'en coûtent. Ils rapportent de la vie plus qu'ils ne coûtent d'argent. Alors, voilà, c'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des mécanismes d'inefficacité. On a parlé du médicament. Bien sûr, la même chose existe dans le domaine des analyses, dans le domaine des équipements médicaux. Et ça se fait aux dépens, très violemment, des professionnels de santé. Qui se retrouvent dans certaines spécialités, en tout cas certains métiers, sous une pression incroyable. Voilà, on a un témoignage du fait que les aides-soignantes doivent faire la toilette de personnes avec Alzheimer en 7 minutes, doivent leur donner à manger en 5 minutes. Dans quel monde vivons-nous? Donc c'est pas acceptable. Et s'il faut payer plus de professionnels ou les payer plus cher pour avoir des soins décents aux personnes vulnérables.
Comment organiser la recherche scientifique concernant les problématiques de santé?
Oui, j'ai un peu répondu en disant que je n'ai pas la réponse, mais que le système actuel, entièrement, on va dire, mondialisé, financé par des mécanismes financiers, c'est trop dire, par les fonds de pension, etc., des fonds d'investissement spéculatifs à risque, etc. Voilà, si on en faisait le bilan global mondial, je doute qu'on le juge très productif. Voilà, il faut en changer.
Quelle est la position de Jean Lassalle concernant la PMA et la GPA?
Oui, d'abord, c'est deux sujets assez profondément différents. C'est deux acronymes de trois lettres, alors on les rapproche souvent. Bon, il a pris une position à la suite de la loi mariage pour tous, hein, qui n'a pas voté, non pas sur le fond, parce qu'il aurait été opposé au mariage pour tous, mais parce qu'il a perçu le débat, et notamment le fait qu'au moment même où on allait voter la loi, la garde des Sceaux introduisait des nouvelles dispositions en faveur de la GPA, ou du moins il l'a compris comme ça. Ça a été compris comme ça, très largement. Comme une volonté de provocation et de division de la société française sur un sujet qui, au contraire, devrait être, est presque de nature constitutionnelle. Hein, la composition de la famille, qu'est-ce que c'est qu'une famille, ça fait partie de choses qui peuvent changer, bien sûr, avec le temps, mais qui doivent être acceptées largement, qui doivent faire consensus dans une société, sinon c'est pas possible. Comment on se reconnaît les uns les autres. Bon. Et donc, effectivement, il pensait, suite à ce débat très clivant et instrumentalisé par le pouvoir politique de l'époque, qui est toujours aujourd'hui, pour quelques semaines, en place, que c'était pas le moment. Enfin, en tout cas, il s'est félicité du retrait de la loi famille, qui aurait été plus loin sur la question de la procréation médicalement assistée. Voilà, maintenant, si on regarde les choses un peu plus... Le sujet. Enfin, la PMA, ça veut dire quoi? Ça veut dire une femme. C'est le cas d'une femme qui veut devenir mère. Qu'est-ce que change le fait qu'elle ait un compagnon, une compagne, ou qu'elle n'en ait pas du tout? Enfin, voilà, le désir de maternité, c'est elle qui va porter l'enfant. Et puis moi, je suis un homme pour vous répondre. Je suis très mal placé pour vous répondre, comme lui l'est. Mais voilà, c'est un peu, au fond, étrange. Hein, d'en avoir une approche seulement médicale et de dire on considère que si elle est mariée avec un homme et qu'il y a une situation de stérilité d'une part ou d'autre qui fait qu'il n'arrive pas à enfanter dans les conditions canoniques, on va dire, à ce moment-là, on a droit à une solution médicale. Bon, ça semble plus juste de regarder les choses du point de vue de la femme qui est concernée, voilà, de sa liberté de faire des choix qui la concernent. Voilà. D'ailleurs, parce qu'on évoque souvent le sujet pour des couples de femmes, mais en général, il n'y a qu'une des deux qui sera enceinte. En tout cas, dans une PMA donnée. Voilà. La GPA, c'est un sujet sur lequel Jean Lassalle est beaucoup plus réservé, vraiment à cause de la dimension marchandisation. Voilà, dans la tradition française, la mère de l'enfant, c'est la femme qui porte l'enfant, qui porte la grossesse. Voilà, et imaginez que du statut de mère, la personne qui porte l'enfant devienne une salariée, une travailleuse indépendante. C'est un peu... voilà, ça reste choquant, et en tout cas, c'est pas une direction dans laquelle il souhaite aller.
Quelle place consacrée à la bioéthique dans la recherche scientifique?
Grande, hein, qu'est-ce que vous voulez. En tout cas... La première, je me suis posé la question, en fait, vendredi dernier. J'ai pas retrouvé de texte spécialement de Jean là-dessus, et j'en ai pas reparlé depuis. Mais la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est que la recherche sur l'éthique, sur la biologie, sur l'être humain, et je prends de l'avance sur vos questions suivantes, là, sur qu'est-ce que devient l'être humain confronté, y compris simplement à vivre avec un téléphone portable, mais aussi à avoir éventuellement des gènes modifiés, avoir... à être né dans des conditions qui deviennent très diverses, etc. Qu'est-ce que ça change dans notre humanité? Qu'est-ce que ça change dans notre destin, dans notre identité, à partir du moment où on sait qu'on pourrait cloner des gens? J'ai pas plus la réponse, et je pense qu'aucun candidat à la présidentielle ne l'a non plus, même Jean Lassalle. Mais c'est des questions très profondes et qui mériteraient un très gros effort de recherche. Y compris en allant voir ce qui se passe dans des pays qui pratiquent aujourd'hui des choses que nous, on interdit chez nous. Et, quelles conséquences ça a? Comment ça change la perception que les gens ont? Voilà, c'est un champ qui s'ouvre en réalité, et ça serait très prétentieux de prétendre le fermer.